les jardinières.
Les jardinières sont de retour après des vacances bien méritées. Il est temps de se remettre à biner. Mais avant de passer à vos questions, laissez-moi vous présenter la nouvelle équipe des jardinières. À mes côtés, Raphaël, jardinier en herbe. Bonjour Raphaël, bienvenue dans l'équipe.
Mais bonjour Mylène, alors vous inquiétez pas déjà pour vos questions. Jardinage, ce ne sera pas moi qui vais vous répondre, on aura un spécialiste envers nous. Mais par contre Mylène, moi je suis un peu déçu, tu m'avais promis d'aller au jardin. Moi j'avais prévu les bottes, puis du coup on est quand même qu'en studio.
Bah oui, bah c'est comme ça.
Bon, aujourd'hui, ce matin, nous accueillons Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Bonjour.
Fabrice, nous l'avons perdu dans l'au-delà.
Oui, voilà. Ah. Je crois que le petit problème technique
c'est tout bon, on
est réparé,
vous
mais j'ai un gros écho.
J'ai cru que c'était moi qui devais aller répondre aux questions de nos jardiniers. J'ai eu très peur pendant quelques secondes.
Non, c'est bon. Fabrice est là. Donc, Raphaël est là, Fabrice est là, je suis là. Les présentations sont faites. Il nous reste à vous rappeler comment faire pour poser vos questions. Vous pouvez nous appeler en direct au 0901 70 20 20, toujours pour 36 centimes la minute. Vous avez aussi l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939, pardon, ou via le formulaire disponible sur nos sites web sous l'onglet émission, questions jardinières. Et puis ne soyez pas avare sur les détails, ça aidera Fabrice à répondre vos questions. Voilà, les jardinières, c'est parti et c'est jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Le mois d'août touche gentiment à sa fin. Bah oui, déjà, l'été nous en a fait voir de toutes les couleurs, entre canicule et température plutôt fraîche, entrecoupée d'orages. Bref, il y en a eu pour tous les goûts. Fabrice, nous sommes fin août. Que faire au potager vu les conditions climatiques?
Alors, on a encore pas mal de choses à faire à tout point de vue. Pour le potager proprement parlé, on a tout ce qui est récolte. Ça va des simples salades jusqu'aux tomates qui sont un petit peu les reines pour cet été. On aime bien avoir de belles récoltes de tomates. Ça s'est bien passé. On a eu quelques couacs avec des stops au niveau de la végétation à cause de ces grandes chaleurs. Mais tout semble rentrer dans l'ordre maintenant. On a aussi maintenant à préparer tout ce qui est les plantations, les semis, pour avoir une végétation durant l'hiver, comme le poireau par exemple, des épinards, des choses comme ça pour aussi ce printemps. Et après, on a les traditionnels sarclages, binages pour l'entretien de notre jardin. Après, on a aussi sur le jardin, d'une façon plus générale, les petits fruits qu'il faut qu'on s'occupe. On a encore des récoltes, on a encore des petits palissages, un maintien. On a nos plants de vignes aussi qu'on va commencer de récolter. Puis après, au niveau des fruitiers, on a commencé les récoltes des damascènes. Ça va gentiment suivre maintenant dans les prochaines semaines, mois, sur tout ce qui est prunes, poires, pommes. Donc il y a pas mal de boulot encore devant nous.
En tout cas, toutes vos questions sont les bienvenues par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes par minute, par SMS. Vous tapez jardin espace votre question et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site web sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
C'est Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy, qui répond à vos questions ce matin. On parle jardinage jusqu'à 8h.
Et je vous propose de démarrer tout de suite avec une question reçue pendant la pause estivale. C'est Fabienne qui a de la sauge officinale dans son jardin. Les feuilles sont petites et pleines de petits trous. Elle pense à des chenilles, mais ne les voit pas. Comment peut-elle traiter naturellement ?
Alors moi je dirais qu'avant de traiter, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une observation assez méthodique de la plante. Déjà, un, savoir si l'attaque est en cours maintenant. Donc s'il n'y a pas d'attaque en cours maintenant, si ces petits trous ne progressent pas, ça veut dire que la bestiole en question, elle n'est pas là, donc ça sert à rien de traiter, je pense. Ensuite, si on a toujours une évolution de ces dégâts, il faudrait isoler une ou deux de ces bestioles et puis aller voir près d'un revendeur pour travailler avec le produit adéquate, ou alors mettre un auxiliaire ou des pièges à phéromones, des choses comme ça qui vont de pair avec la petite bête. Mais après, si rien ne se passe, il faut laisser faire la nature, parce que toutes les attaques ont des cycles. Et après, des fois, passé une certaine date, la bête en question a atteint son stade adulte et l'attaque disparaît. Donc il ne faut pas forcément traiter pour traiter dès qu'on voit simplement une petite piqûre, une morsure ou une découpe dans les feuilles.
Donc justement, là, si c'était des chenilles, elles sont devenues papillons depuis le temps?
Ben, suivant les espèces, probablement effectivement qu'elles sont devenues papillons et donc là, la chenille n'est plus sur la plante. Donc,
non, mais justement, Fabrice, est-ce que vous préconisez le fait de laisser souvent faire la nature, faire en fait les choses?
Ça dépend le stade. Si on a un stade qui est un petit peu avant-coureur, si c'est le départ, et puis qu'on voit que ça n'évolue pas, puis que ça ne met pas en danger la plante ou alors la fructification, bah on peut laisser faire la nature, effectivement. On parle assez maintenant de respect de l'environnement. On parle qu'on peut être tolérant aussi par rapport à des feuilles ou à des fruits qui sont plus propres à la consommation, sans vouloir toujours avoir des fruits bien brillants ou des choses comme ça. Donc on peut avoir une certaine tolérance. Donc là, en l'occurrence, si on a des feuilles de sauge, ce qu'on peut faire, c'est les laver, les laisser sécher, puis après les faire sécher pour la conservation, pour après faire les phases d'infusion plus tard dans la saison. Donc pas forcément se dire, il y a un trou, ma feuille, elle est fichue. Non, il faut traiter et puis utiliser à fond ces produits.
Le jardinier se doit d'être patient.
On doit travailler avec la nature, exactement.
Voilà. On a une question de Malo, de Boudry. Elle nous dit « Bonjour, j'ai un petit bonsaï d'extérieur, mais je le laisse à l'intérieur car ma terrasse est toute la journée exposée au soleil. Il est sec de chez sec, malgré mon attention, et j'ai beaucoup de peine à le récupérer. Comment faire? Un conseil. » Et elle vous remercie d'avance, Fabrice.
Alors, comme on le dit déjà dans l'énoncé, une plante d'extérieur est faite pour travailler avec les saisons. Elle a un repos hivernal, elle va se réveiller gentiment au printemps, elle va passer l'été dehors et elle va s'endormir gentiment en perdant ses feuilles. Si c'est un caduc ou si c'est un persistant, elle va garder son feuillage, mais elle a besoin de ce repos de nouveau hivernal. Donc, elle doit garder ce cycle des saisons. Donc, je pense déjà la première chose qui serait bien, c'est de respecter ça. Ensuite, si elle le met à l'intérieur, ben c'est effectivement difficile de contrôler tout ce qui est arrosage, l'air ambiant qui est complètement différent à l'intérieur de l'extérieur, parce qu'on va être peut-être à 30 degrés en été dehors, puis on va être à 20-25 degrés dedans. Donc les choses ne se passent pas la même chose pour cette plante. Maintenant, pourquoi elle a séché, à savoir s'il y a eu un problème de parasites, de maladies ou un arrosage irrégulier, ou alors un arrosage trop abondant qui ont fait que les racines se sont asphyxiées et la plante a desséché. Ça, il faudrait pouvoir voir la plante ou pendant que le mal s'opère pour donner un diagnostic précis pour corriger le tir.
Donc il y a quand même beaucoup de choses à regarder.
Il y a plusieurs facteurs à tenir compte tout au long de l'évolution. Il ne faudrait pas attendre que les feuilles soient tombées puis que les rameaux sont en train de se rider pour dire « ici c'est fichu ». Il faudrait, pendant que les feuilles changent de couleur ou alors qu'on voit des morsures, des choses comme ça, intervenir tout de suite en s'approchant de quelqu'un pour dire « on a ces symptômes-là » et à partir de là, on peut avoir la bonne réaction et la bonne attitude.
Merci Fabrice. Vos questions arrivent gentiment ce matin. On a d'ailleurs reçu une question, Raphaël.
Exactement. Alors juste avant, on rappelle peut-être le numéro, Mylène, 0 901 70 20 20 36, centimes par minute. Par SMS, vous tapez jardin, espace, votre question et vous envoyez tout ça au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site web sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et justement, cette question, elle est arrivée de Suzanne qui nous demande sur les plants de courges, courgettes et pâtissons, est-ce qu'il faut enlever les fleurs qui n'ont pas de fruits ou sont-elles utiles? Bonne journée.
Alors, pour les fleurs qui ne donnent pas de fruits, c'est des fleurs mâles. Donc, effectivement, on peut les enlever, on peut les laisser. Il y en a qui les enlèvent tout simplement pour faire, par exemple, des beignets de fleurs. Donc, il paraît que c'est excellent. Ensuite, les laisser, ben, la fleur va se décrocher, va tomber au sol. Donc, ça va pas provoquer de pourrissement ou de choses comme ça. Donc, il y a rien à craindre. Non, il faut laisser faire la nature ou alors les récolter pour en faire quelque chose. Mais négatif, c'est en tout cas pas négatif pour la plante.
Donc Suzanne, soit elle mange sa plante, soit elle la laisse aux limaces. Merci.
Pour le petit déjeuner, c'est sympa.
C'est pas mal. Et on va parler tomates maintenant avec Fabrice Rondé, notre professionnel jardinage aujourd'hui. C'est Antoine qui vit à Lignières qui nous pose la question suivante. Donc il vit à Lignières, c'est environ 800 mètres d'altitude. Sa question, il a des tomates dans son jardin, mais elles ne rougissent pas. Est-ce que la récolte va se perdre ou peut-il faire quelque chose? Fabrice, est-ce qu'on peut l'aider? Pardon.
Fabrice reperdu dans les méandres de la radio.
C'est moi. C'est complètement moi qui fait n'importe quoi.
Pas de
voilà.
Souci. Par rapport à ça, donc non. Et ce qu'il faut faire, c'est un petit peu laisser le temps au temps. Donc, on a eu deux périodes estivales qui ont été assez chaudes, où c'est que la végétation s'est stoppée pour se préserver un petit peu. Et du coup, il y a un décalage qui s'est mis en place. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les tomates sont quand même, pour le grand pourcentage, des grappes bien formées. Et puis, elles sont joliment vertes. Pas de maladie, je pense, si s'en est bien occupé. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que gentiment, elles vont commencer de se colorer. Maintenant, il ne faut pas tout de suite les ramasser. Il faut laisser les premières rougir parce qu'elles vont sécréter une phéromone, une hormone qui va provoquer le mûrissement du reste de la grappe. Donc, en tout cas, pas avoir le réflexe de tout cueillir et puis de se dire je vais les mettre dedans, elles vont rougir dedans. C'est possible, mais par contre, c'est beaucoup plus délicat. Donc, laissez faire sur vos pieds de tomate cette réaction qui doit se faire gentiment. On a quand même encore tout le mois de septembre pour mettre cette fructification en place. Cet état de maturité plutôt. Et puis justement, rien que faire ça, laisser 2-3 tomates rouges sur les plants, elles vont toutes seules provoquer le mûrissement du reste des grappes sur toutes les plantes. Puis après, si vous les rentrez, parce qu'on arrive un petit peu en fin de saison, ce qu'il faudrait faire, c'est les isoler, pas qu'elles se touchent les unes des autres, les mettre sur des feuilles de papier. Et puis on peut laisser une ou deux tomates mûres dedans pour provoquer la même réaction. Ou alors, par exemple, on a des fruits comme la pomme, il paraît qu'on peut mettre dedans aussi, que ça fonctionne très bien, j'ai jamais fait l'expérience, mais justement la pomme, une pomme bien mûre, peut accélérer aussi la maturité de nos tomates.
Donc encore une fois, hein, le jardinage, c'est de la patience, on ne peut pas se ruer voilà. Sur ces tomates qu'on a attendues tout l'été. Encore un peu
par contre, un petit conseil d'amateur, si elles sont vertes, c'est qu'elles ne sont pas mûres.
Bravo. Fabrice, on va vous retrouver après la pause météo et info route pour toujours des questions jardinage. À tout à l'heure.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sont de retour et il vous reste une petite demi-heure pour poser vos questions à notre invité Fabrice Rondé, paysagiste à Port-en-Truy. On vous rappelle que les jardinières sont votre émission du samedi matin. Vous pouvez poser vos questions, par exemple, par téléphone au 0901 70 20 20, comme l'a fait Vitaline que nous avons au téléphone. Bonjour.
Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, comment
Allô?
Allez-vous?
Bien, merci, et vous?
Vous avez une question pour Fabrice.
Oui, j'ai une question pour Fabrice. J'ai possibilité de replanter un plant de rhubarbe. Et puis, j'aimerais savoir quand c'est le meilleur moment pour le faire.
Bonjour Vitaline. Alors, pour cette plante de rhubarbe, ce qu'il faudrait faire, c'est juste attendre qu'on arrive en repos de végétation. Donc, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre, novembre. Et vous pouvez faire ça jusqu'à, on va dire, mars, juste avant que la plante ne se réveille. Donc, évitez de le faire du moment que le terrain est gelé ou qu'il soit sous une couche neigeuse. Mais à partir du moment donné que vous verrez que votre plante rhubarbe aura ses feuilles qui soient fanées, vous aurez coupé tout ça pour qu'il soit bien propre pendant l'hiver. Vous pouvez commencer de prélever la motte avec un maximum des racines pour le mettre à l'endroit où c'est que vous le souhaitez.
D'accord. Et puis, je devrais apporter une terre un petit peu spécifique ou bien non?
Ce qui marche bien quand même, c'est d'avoir une terre profonde, légère et puis riche. Et là, il va redémarrer très facilement et très rapidement. Ce n'est pas une plante non plus qui est très, très demandeuse. Il faut éviter quand même des terres marneuses. Il faut mettre une terre juste riche et légère pour qu'elle puisse refaire un enracinement rapide.
Oui. Alors, si je mets un sac de terreau tout simple, ça suffit et que je mélange à la terre?
Alors, prenez un bon terreau, toujours. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger votre terre de jardin avec, je pense que vous avez peut-être du compost dans votre commune. Et puis, vous pouvez prendre du compost que vous mélangez, un compost bien mature avec votre terre. Et ça ira aussi.
Ah ben, c'est super. Merci beaucoup.
Pas de quoi.
Merci à vous.
Alors, bonne journée.
Bonne journée également.
Merci beaucoup, Vitaline. À bientôt.
On rappelle que vous pouvez poser vos questions comme Vitaline au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou par message. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet questions aux jardinières. On va continuer avec nos questions. Je crois qu'on va parler d'un pommier. Raphaël.
D'un pommier, oui. Alors, si je retrouve la question sur mes fiches, ce serait une excellente nouvelle. Alors, si, Mylène, si vous les avez,
oui,
ça m'arrange.
Alors, c'est Esmeralda qui nous posait la question. Elle aimerait planter un pommier dans son jardin. Elle nous dit qu'elle possède un très grand jardin et aimerait pouvoir manger des pommes rapidement, genre l'automne prochain. Quand doit-elle planter
T'appelles ça rapidement, toi?
Bah, quand même. Ça serait... Là, c'est un peu tard, parce qu'on est quand même en août. Mais on pourrait attendre jusqu'à l'automne prochain. Elle se demande quel pommier, quelle variété choisir. Fabrice.
Alors, la variété n'y est pas pour grand-chose. Déjà, si elle est dans les arbres à pépins, on aura une production par rapport à des plantes à noyaux qui sera plus rapide. Mais de là à garantir une production pour l'année prochaine, ça peut être possible si on travaille avec du pommier nain. Mais par contre, on pourrait avoir quelques fruits, si tout va bien. Mais pas de quoi faire
une tarte
ou voilà, de la garde pour plusieurs kilos, ça, c'est pas garanti du tout, hein. Donc, au contraire, il faudrait plutôt laisser la plante se former, qu'elle construise un squelette fort, un bon enracinement, qu'elle puisse supporter après des récoltes abondantes dans les années à venir, plutôt que de forcer à cette plante à garder toutes ses pommes, qu'elle soit de petit calibre, parce que justement l'enracinement n'est pas assez fort, et puis après qu'elle n'ait pas non plus un squelette assez fort dans les années à venir, puis qu'elle casse sous le poids des pommes. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà, se diriger vers un pommier... Donc, comme on a vu, nain, pas du mi-tige ou du haut-tige qui mettront plus de temps à commencer de produire. Et puis après, l'avantage qu'il peut y avoir, elle dit qu'elle a un grand jardin, l'avantage qu'elle peut avoir, c'est peut-être aussi de travailler, en travaillant avec du nain, avec plusieurs pommiers. Un arbre de mi-tige ou de haut-tige va demander plus d'espace à la plantation. Tandis que si elle travaille avec du nain, elle pourra mettre deux sujets ou trois sujets au lieu d'un. Ce qui va provoquer aussi la possibilité de choisir plusieurs variétés différentes, ce qui peut vous amener à avoir une récolte avec les premières pommes, par exemple avec la Grafenstein sur la mi-août, et après avec des pommes de garde ou des pommes de cuisson, en évoluant dans la saison, ce qui fait qu'on n'aurait pas toutes les pommes qui arrivent en même temps à maturité, mais d'avoir un étalonnage en fait de maturité des fruits, ou alors des fruits qu'on peut travailler, comme on l'a vu, soit sur de la garde, soit sur la cuisson, et ce qui peut être très intéressant.
J'aimerais juste revenir sur... vous parlez des pommiers nains. Nains, enfin, pour moi, un nain, ça mesure à peine un mètre. Est-ce que c'est la même chose pour un pommier? C'est tout petit?
Alors, c'est tout petit, effectivement, parce qu'un pommier nain, en fait, ce qu'on regarde, c'est la hauteur de tronc. Une hauteur de tronc à peu près de, on va dire, de 40 à 60 cm. Et après, on a la couronne qui va prendre son développement. Un pommier mi-tige, c'est à peu près une hauteur de tronc de 1,10 m, 1,30 m. Et après, on a la couronne qui va prendre son développement. Donc, on voit déjà qu'on a une belle différence entre les deux sujets. Et après, le pommier haute tige, lui, il aura une hauteur de tronc qui sera autour du 1,80 m pour avoir une couronne qui va se développer. Donc ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'un pommier nain, quand on se balade dans son jardin, on peut décrocher une pomme très facilement comme ça et la croquer. Même pour les enfants, ils peuvent évoluer dans le jardin et pouvoir cueillir un fruit. Tandis qu'à partir du mi-tige, on va quand même avoir des difficultés parce qu'on aura des fruits qui seront à partir de 1m30, 1m40 pour les plus bas et qui vont monter jusqu'à du 4-6 mètres de hauteur. Pour du haut-tige, on aura les premiers fruits qui seront à du 1,80 m minimum et qui vont monter jusqu'à du 4-6 mètres et plus. Donc c'est très différent par rapport à l'occupation du volume dans notre jardin.
Okay. On rappelle peut-être le numéro pour nous appeler, Mylène. Vos questions sont les bienvenues, vous le savez, jusqu'à 8h dans les jardinières, 0901 70 20 20, 36 centimes par minute. Par SMS, vous tapez jardin, espace, vos questions, et vous nous envoyez tout ça par SMS au 939 et via le formulaire disponible sur notre site web sous l'onglet émission, questions ou jardinières.
Les jardinières.
Les jardinières encore présentent un petit quart d'heure pour répondre à vos questions. Des questions qu'on attend toujours par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez ce message au 939 comme l'a fait Amandine.
Exactement, Amandine qui demande à notre jardinier si elle aimerait changer de place son pied de pivoine de 4 ans qui est en terre pleine. Comment faire au mieux et quand?
Alors, c'est pareil en fait, comme on l'a vu avant pour notre plante rhubarbe. Donc c'est une racine, c'est une plante vivace. Donc il faut attendre qu'elle soit en repos végétatif pour que ça se passe le mieux possible. Donc quand on sera arrivé à ce stade-là, on va couper les feuilles, on va prélever un maximum de mottes pour avoir un maximum de racines non coupées. On va la mettre à son endroit définitif où c'est qu'on aura pris le soin juste avant de bien ameublir la terre pour que les racines puissent prospérer rapidement et redémarrer rapidement au printemps avec un allègement si c'est nécessaire parce que la terre serait trop lourde. Après, on arrose bien pour que la terre fine puisse aller colmater comme il faut tout partout les interstices autour des racines. Et après, on laisse travailler la saison hivernale et la plante va se réveiller tout tranquillement au printemps prochain.
Est-ce qu'on peut déplacer une plante comme cette pivoine qui est en pleine terre et la mettre dans un pot? Elle va supporter?
Alors disons que les plantes dans les pots, c'est toujours possible, un peu toutes les plantations. Mais après, ce qu'on a, c'est qu'on est un petit peu à l'étroit. Les racines n'évoluent pas toujours la même chose selon les plantes. Donc on peut avoir une réaction qui peut nanifier, qui peut faire que la plante se développe moins bien qu'en pleine terre. Et ensuite, on peut avoir aussi un gros problème durant les saisons par rapport à l'arrosage. Parce qu'il faut toujours les bichonner, il faut toujours être derrière, toujours être à l'écoute de savoir s'il y a assez d'eau ou s'il n'y a pas trop d'eau. De savoir que le pot, il faut aussi le drainer, avoir un trou pour justement évacuer les surplus d'eau pour éviter tout problème. Et après, on a le même problème du pot, mais en hiver cette fois, où c'est que le pot étant petit, on peut avoir des problèmes de gel qui pénètrent jusqu'au cœur du pot et qui pourraient brûler les racines et faire que la plante ne redémarre pas au printemps. Donc la pleine terre est quand même une solution où c'est que la plante en général se développe bien mieux et nous donne moins de travail quant justement à la protection hivernale ou alors à l'arrosage en été.
On enchaîne avec une autre question qui nous vient cette fois-ci de Maurice de Courondelin. J'ai planté des courgettes, mais aucune plante n'a donné de légumes. On m'a parlé d'un problème de pollinisation. Pouvez-vous m'expliquer ce que ça veut dire et quoi faire? Merci d'avance.
Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est si déjà il a eu des fleurs ou pas. Donc, à partir du moment donné où c'est qu'il n'a pas eu de fleurs, c'est qu'il y a un petit souci au niveau de sa courgette, parce que normalement, ça fleurit quand même relativement bien. Maintenant, si on a eu des fleurs en abondance et puis qu'on a un manque de fruits, c'est qu'on a peut-être en présence d'une grande majorité, voire essentiellement de fleurs mâles. C'est assez rare, mais pourquoi pas. Maintenant, la pollinisation, comment on peut la pratiquer, c'est valable aussi pour les tomates, par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement favoriser l'arrivée des pollinisatrices, qui sont en général les abeilles, en mettant tout simplement peut-être une ou deux petites fleurs dans son jardin, qui peuvent en même temps avoir un effet répulsif sur d'autres bestioles, comme des tagettes. Ça peut être pas mal, parce que on va avoir un effet aussi synergique dans le jardin, où c'est que ça va passer d'une plante à l'autre, ça va tout polliniser. Et après, on peut autrement, d'une façon manuelle, secouer légèrement la plante quand elles sont en fleurs pour que les pollens tombent et fécondent les plantes elles-mêmes. Mais si on peut laisser faire la nature puis favoriser peut-être la venue des insectes, c'est pas mal.
Laisser faire la nature et laisser faire l'insecte, ce sera, je crois, le thème de ces jardinières. 0901 70 20 20, vous nous appelez, comme c'est le cas pour Freddy qui est en ligne. Bonjour Freddy.
Bonjour.
Votre question pour notre jardinier, Freddy?
Oui. J'ai un saule pleurure nain. Je l'ai acheté ce printemps. Et puis, il a tout perdu ses feuilles. Elles sont venues noires, puis il n'y a plus de feuilles.
Bonjour Freddy. Est-ce que les feuilles, vous avez constaté autre chose que dessus, comme des insectes ou des taches blanches ou je ne sais pas, qui se soient développées dessus,
non.
Ou bien il a, les feuilles ont séché et terminé, plus rien ne s'est passé?
Oui.
Au niveau de l'arrosage, vous avez pratiqué un arrosage pour démarrer cette plante, pour que l'enracinement se fasse comme il faut?
Oui, j'ai mis de l'engrais universel.
Ouais, mais au niveau de l'arrosage, parce qu'on a eu quand même deux grosses pointes de chaleur qui ont duré assez longtemps, et après on a eu une période en plus de ça qui a duré au-delà de ces deux périodes de canicule, on a eu une période quand même très longue sans eau. Donc une jeune plante a besoin d'énormément de travail pour démarrer, elle doit s'ancrer, elle doit tirer de l'eau, elle doit tirer de la nourriture pour pouvoir démarrer correctement. Donc elle a besoin dans sa première année d'un arrosage assez suivi. Donc moi je dirais en tout cas tous les 2 à 3 jours, et ça jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a des nouvelles pousses qui se forment sur le bout des branches, et une fois qu'on voit que ces pousses se mettent en place, on sait que la plante a formé de la racine et on sait que la plante va pouvoir pratiquement subvenir à ses besoins pour continuer le chemin tout seul. Mais si on n'apporte pas d'eau et puis que les nouvelles pousses n'ont pas démarré, ça veut dire que la plante elle pourrait démarrer sur ses réserves, continuer un petit moment sur ses réserves, et après elle pourrait se dessécher. Donc sans voir la plante au niveau des feuillages, c'est un petit peu comme je disais avant, on ne peut pas déterminer avec, de façon sûre que c'est bien un problème de sec, mais qu'il pourrait y avoir une attaque de quelque chose. Mais ces saulnins ne sont pas des plantes forcément sensibles, c'est des plantes de nouveau assez rustiques qui ne posent pas trop de problèmes. Moi, je pencherais plutôt pour peut-être un manque d'eau si vous n'avez pas été assez régulier, peut-être pendant cette période de juillet-août qui a été assez chaude quand même.
Oui.
Je ne sais pas si ça correspond un petit peu à ce que vous avez pratiqué ou pas.
Bon, j'ai arrosé en même temps que les géraniums, quoi.
Et puis assez abondamment. Il faudrait mettre, je pense, l'équivalent de... Moi, je pense en tout cas de 5 litres tous les 2 jours, en tout cas. Pour en tout cas sur 2 à 3 semaines, histoire que le terrain soit bien mouillé en profondeur, qu'après, pendant les grosses chaleurs, par capillarité, la plante puisse reprendre par le fond l'eau dont elle a besoin, pas mouillée juste en surface, qui pendant une journée où c'est qu'il a fait 35, voire 40 comme on a eu, si on met juste un petit peu, l'eau s'évapore tout de suite et du coup la plante elle ne prend rien du tout, ou en tout cas pas ce qu'il lui faut.
D'accord.
Donc soyez vigilant par rapport à ça peut-être.
D'accord.
Alors une bonne journée, un bon week-end.
Merci beaucoup Freddy,
merci
Freddy
d'avoir appelé.
Bonne journée.
Il est déjà 7h54, ça file, il est déjà bientôt l'heure pour les jardinières de filet. Durant une heure, nous avons parlé de beaucoup de choses, de rhubarbe, de pommiers, d'un saule pleureur, d'un bonsaï, bref, de beaucoup de choses. C'est aussi ça, les jardinières. Et puis la météo de ce week-end annonce plutôt un week-end agréable. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ou préparer déjà l'automne, ou c'est trop vite? Par exemple, je ne suis pas jardinière professionnelle, mais on peut planter des poireaux.
Alors, vous avez tout à fait raison. On va terminer comme on a commencé. Donc, on a vu maintenant qu'on allait préparer notre jardin gentiment pour la fin de saison, c'est-à-dire terminer nos récoltes. Et puis, on va commencer, comme vous venez de le dire, par mettre en place et réfléchir et peut-être se documenter sur toutes les possibilités que nous offre aussi la période de repos hivernal, comme les poireaux, les épinards. On a plein de variétés comme ça qu'on peut mettre en place. On a la fameuse doucette, la mâche, qu'on peut aussi mettre en période hivernale, qui sont toutes des cultures qui sont très intéressantes parce que notre sol ne reste pas nu pendant l'hiver. Donc, pour le jardin et pour nous, ça peut être très intéressant. Donc, peut-être de se renseigner sur ça peut aussi nous amener une source de plaisir pour avoir nos propres légumes pendant la période de repos, voire tout au début de la saison prochaine avant de redémarrer avec les légumes de tout début de saison.
Fabrice Rondet, paysagiste à Port-Rentruy, un immense merci d'avoir été en notre compagnie ce matin, d'avoir répondu aux questions de nos jardiniers amateurs. On vous souhaite un excellent week-end. On vous dit à tout bientôt, Fabrice.
Merci à vous aussi, un bon week-end.
Merci,
au revoir.
Fabrice. La semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Ribaud qui répondra à toutes vos questions. Et d'ici là, vous pouvez nous les envoyer, soit via le formulaire disponible sur nos sites, toujours via SMS aussi, au 939 Jardin, un espace. Votre question et tout ça au 939. Bon week-end, à la semaine prochaine, Raphaël.
À toi aussi, bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.